franceinter.fr.
Bonjour à tous. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui en collaboration avec l'Association des médias francophones publics. 5 regards croisés sur nos villes et nos routes qui étouffent sous les voitures. Des métropoles qui étouffent dans tous les sens du terme, avec un trafic parfois totalement congestionné et des habitants soumis aux risques sanitaires liés à la pollution. Quelles mesures prendre, quelles politiques adopter, ce sont les questions auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics, avec des données parfois très variables d'un pays à l'autre. Nous irons à Vancouver avec Radio-Canada, à Abidjan avec RFI, à la frontière franco-suisse avec la RTS, à Bruxelles avec la RTBF. Et notre premier regard embrassera le périphérique parisien avec un reportage de Thibault Lefebvre. Il y a 44 ans, quand il a été inauguré, le boulevard périphérique parisien était une bénédiction pour tous les habitants de la région. Désengorgeant la circulation d'une capitale contenue dans une enceinte très étroite, il allait enfin permettre une circulation fluide dans toute l'Île-de-France. Les 35 km du périph' sont aujourd'hui la voie rapide la plus fréquentée d'Europe, 1 300 000 véhicules par jour. Les embouteillages s'accumulent au fil des 50 échangeurs et des 23 tunnels. Des embouteillages naturellement coûteux, économiquement, mais qui posent aussi, et peut-être surtout, un véritable problème de santé publique pour les franciliens riverains du périph'. Embarquement avec Thibault Lefebvre, porte de Bagnolet, à l'est de la capitale.
C'est quoi votre prénom ?
Moi, c'est Julien.
Où est-ce qu'on est ?
Bagnolet à Paris, on va sur le périph. Bagnolet Rungis, il y en a pour une bonne demi-heure, 45 minutes.
Une bonne demi-heure, il est à peu près midi pour aller à quoi ? Une dizaine de kilomètres ?
Ouais, même pas, allez, il doit y avoir 10, 8, 12, un truc comme ça. À Paris, il faut multiplier par 2 ou 3 les temps de trajet.
Vous empruntez souvent le périphérique parisien ?
Je l'emprunte tous les jours pour partir, pour rentrer. Toute la journée, le périph est plein. Voilà, il suffit d'un seul accident, un petit accrochage pour noyer le périphérique sur des dizaines et des dizaines de minutes.
Est-ce que vous, vous n'avez pas l'impression de contribuer à l'asphyxie de nos villes ?
C'est qui a mis en place le diesel ? C'était une stratégie d'État. Donc le mauvais État, c'est pas moi, je suis qu'un citoyen. Si j'achète du diesel, c'est à l'État de me rembourser. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de pollution à cause des véhicules. Je dis que je n'en suis pas responsable. Ça n'a rien à voir. Ça, faut pas dire des conneries. Ça, c'est pas la même chose. Ouais, je m'arrête un peu n'importe comment, c'est pour vous.
Et bah bon courage
Merci
à vous et
bon
à bientôt.
Courage.
Merci.
Au revoir.
Les itinéraires sont en cours de calcul. Attention, l'itinéraire comprend des perturbations de circulation. Tournez maintenant à droite.
Et les premiers touchés par la pollution émise par les centaines de milliers de véhicules qui empruntent tous les jours le périphérique parisien, ce sont évidemment les riverains. Nous sommes porte de Bagnolet à l'est de Paris, à environ une centaine de mètres d'un des plus gros échangeurs de la capitale. Et c'est ici que vivent environ 4000 personnes hébergées par la RIVP. La RIVP, c'est la régie immobilière de la ville de Paris. Deux cités, Piton-du-Vernois et le 4 place de la Porte de Bagnolet. Des bâtiments de 4 à 11 étages construits il y a plus de 40 ans entre une station-service et le périphérique. Et évidemment, un niveau de pollution record en France.
Allô ?
Bonjour madame, c'est Thibault Lefebvre de la Radio France Inter.
C'est bon, trois étages.
Troisième étage, merci.
Oui. C'est là.
Enchanté, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, bienvenue. Allons-y.
Merci, donc on est chez vous là juste, je constate que la fenêtre est ouverte.
Oui, il y a plutôt intérêt parce que bon, quand même il y a des odeurs. Voilà, donc c'est super bruyant, mais le soir quand j'arrive, je ferme, pas moyen de dormir. Il n'y a que mes enfants qui arrivent.
27 ans sur le périphérique, des enfants qui ont grandi à proximité de la voie rapide la plus encombrée d'Europe. Ouais. Quelles sont les conséquences sanitaires ?
On a beaucoup de maux de tête, on saigne du nez. Quand on parle à un moment, on a mal à la gorge, on tousse pas mal.
Vous saignez du nez ?
Ouais, mes enfants saignent du nez, très fréquemment. Donc est-ce qu'ils ne saignent pas du nez à cause de la pollution ?
Eh oui, vous l'avez suivi, cette amourette, et maintenant vous êtes coincé sur le périphérique intérieur des Lilas à Châtillon et sur les.
En roulant tout à l'heure avec Julien, nous avons croisé un grand cube vert surmonté de capteurs, très discret. Il est installé à la lisière du périphérique. Porte Dorée, c'est au sud-est de Paris et il appartient à l'association Air Parif. L'objectif de cette station de mesure de la qualité de l'air, il est très simple, il s'agit de prévenir en cas de pic de pollution. Et dans son viseur, essentiellement, deux polluants, les particules fines et le dioxyde d'azote. Charlotte Songeur est ingénieure pour Air Parif et elle nous attend à l'entrée de la station.
Ici, on va mesurer les particules fines inférieures à 10 microns et inférieures à 2,5 microns, ce qu'on appelle les PM10 et les PM2,5. C'est celles qui vont avoir un impact direct sur la santé. Alors, les PM10, c'est celles qui vont rentrer dans votre système respiratoire, et les PM2,5, elles vont jusqu'à rentrer dans votre système sanguin. C'est celles qui ont le plus d'impact sur la santé, au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau cancérigène. À l'année, il faut savoir que, tout polluant confondu, on va avoir près de 1,4 million de franciliens qui vont dépasser les normes réglementaires pour leur santé. Et bien évidemment, les premières personnes touchées, ce sont celles qui vivent à proximité des grands axes, que ce soit les périphériques ou les grands boulevards. À l'année, tous les axes, toutes les autoroutes urbaines, et tout le trafic routier, c'est un quart des émissions des particules. L'idée, c'est pas non plus d'empêcher les gens de se déplacer. On en a besoin pour faire fonctionner une ville, on a besoin de se déplacer. Donc c'est vraiment d'aller trouver des solutions pratiques et efficaces, permettre aux personnes de se déplacer par d'autres mobilités et aussi repenser nos déplacements pour limiter cette pollution.
Environ 100 000 personnes vivent à proximité du périphérique, des Parisiens et des habitants de la banlieue proche séparés depuis plus de 40 ans par l'anneau circulaire. Une frontière qui s'efface progressivement, comme ici, nous sommes Porte des Lilas, c'est au nord-est de Paris, où une poignée d'habitants s'est battue il y a une quinzaine d'années pour que soit complètement recouvert le périphérique. Résultat, un cinéma, un cirque, des bars et un grand espace vert occupent une plateforme au-dessus des 8 voies rapides, avec au cœur de ce nouveau lieu de vie, des jardins partagés.
Alors Julien Bluteau du Moissonneur des Lilas. Et le Moissonneur des Lilas, c'est le jardin partagé qui a la particularité d'être sur le périphérique sous nos pieds. On a l'économie noire, nous c'est l'économie verte. Là, ce que j'ai mis à titre personnel, c'est des rosiers et puis essentiellement des herbes aromatiques qui me permettent de faire la cuisine.
Ici, si je comprends bien, c'est un point de réunion entre Paris et sa banlieue, en tout cas ses habitants.
Cette plateforme jardinée, verte et paisible permet de lier les hommes, les jardiniers, les promeneurs et peut-être les points de vue.
Il y a de la vie sur le périphérique.
Alors faudrait peut-être recouvrir tout le périphérique, il y aurait encore plus de vie.
Mais ça coûte très cher.
Est-ce que ça coûte pas plus cher de maintenir ce périphérique ouvert? Est-ce que c'est pas un coût externalisé ou invisible? Je pose la question.
Dès les années 60, Vancouver a fait des choix différents en ce qui concerne le transport. La métropole de la Colombie-Britannique est la seule ville nord-américaine de plus d'un million d'habitants qui a choisi de ne pas construire d'autoroute la traversant, l'obligeant à trouver d'autres solutions pour gérer sa croissance. Sa population continue d'augmenter et pourtant, depuis 2006, le nombre de voitures qui entrent dans son centre a diminué au profit de la marche, du vélo et des transports en commun. C'est le résultat du vancouverisme, une politique qui consiste à encourager le repeuplement du centre-ville, un modèle cité dans le monde entier. Les Vancouverois, comme tous les résidents des grandes villes, se plaignent certes de la congestion, mais cette congestion serait toutefois beaucoup plus intense si on n'avait pas apporté ces changements. Un reportage de Dominique Arnoldi de Radio-Canada.
On prend bien la pluie, hein.
Beau temps, mauvais temps, Mathieu Kruponek accompagne sa fille de 6 ans à l'école. Lui à pied, Martine en vélo ou en trottinette, comme dans presque tous leurs déplacements.
Attends.
La petite famille de 4, qui habite à 15 minutes du centre-ville de Vancouver en transport public, a fait le choix de ne pas avoir de voiture.
On n'a aucune envie d'avoir notre propre véhicule. Aucun besoin, en tout cas. Pour aller faire les courses, eh ben, on fait des courses localement. On prend notre vélo, on a un gros sac, on va chercher. Toujours sur le thème des courses, possibilité de les faire en ligne. La compagnie Spud, par exemple, on commande un petit peu notre nourriture et toutes les semaines, on se fait livrer des ingrédients de bonne qualité qui nous permettent du coup de limiter toutes les semaines d'aller faire les courses plusieurs fois.
Un choix évident pour sa femme, Elodie.
Il n'y a pas le stress pour moi. La voiture, c'est toujours un peu stressant pour se garer, pour les embouteillages, etc. Alors que là, on prend le bus, on sait l'heure à laquelle on part, l'heure à laquelle on arrive, et on n'a pas à se dire « Oh là là, où est-ce que je vais me garer ?»« Où est-ce que... » C'est bien plus facile, rapide. beaucoup moins stressant.
Mais ce qui a fini de convaincre Mathieu et Élodie de se passer d'automobile, c'est l'accès à la voiture partage.
Oui, oui, c'est ça. C'est surtout les week-ends qu'on a besoin de voiture partage. Mais oui, c'est vraiment un gros avantage d'avoir ces... Je crois qu'il y a 4-5 sociétés qui font du voiture partage sur Vancouver. Donc c'est quand même énorme. Et puis les offres se complètent assez bien les unes contre les autres. Donc c'est vraiment bien.
Car2Go, Modo, Zip, Evo offrent l'embarras du choix aux Vancouverois, dans une ville où l'offre de voiture partage per capita est la plus grande au monde. Une solution née en 2001, de la nécessité, après une grève des transports publics qui a paralysé la ville pendant 6 mois.
Dans une ville comme Vancouver, qui est assez grande et qui a ce système d'autopartage, quand on a vraiment la nécessité, on peut avoir une voiture sans problème. Là, sur 200 mètres autour de la maison, on a 2-3 voitures disponibles assez facilement. Donc effectivement, elle n'est pas à côté de la maison. Mais sinon, ça ne nous manque pas du tout. Sur une grande ville comme ici, non, il n'y a aucun besoin.
Une voiture de moins en moins nécessaire dans une grande ville en construction quasi permanente depuis 15 ans. 90 000 personnes ont depuis emménagé dans le centre-ville devenu une jungle de gratte-ciel et de tours vitrées, et où les déplacements en voiture deviennent futiles. Un choix de vie pour Marianne Zakour.
Je vis au centre-ville de Vancouver. J'ai choisi cette qualité de vie, j'aimerais dire, parce que d'abord j'adore le centre-ville et je travaille beaucoup, je travaille très fort et je trouve que chaque minute dans une journée compte, et pouvoir marcher à son travail fait une énorme différence dans la transition entre maison, travail, pouvoir réfléchir et être en paix au lieu d'être dans une voiture en train d'attendre un trafic ou une couleur tournée de rouge à vert.
Plus de la moitié des déplacements à Vancouver se font à pied, à vélo ou en transport public. C'est ici que l'usage du vélo croît le plus rapidement en Amérique du Nord. Le nombre de véhicules enregistrés y diminue chaque année et la population de Vancouver a beau avoir augmenté de plus de 35 % en 20 ans, le nombre de voitures qui entrent dans son centre-ville, lui, a diminué de 23 % Un succès dans la seule ville nord-américaine de plus d'un million d'habitants qui a refusé la construction d'une autoroute la traversant. Succès, en partie résultat de la densification de son centre-ville, mais également de nouvelles lignes de métro aérien très achalandées, d'une extension du réseau des pistes cyclables, de voies de covoiturage et l'obligation pour les constructeurs de réserver des espaces de stationnement pour les voitures partage dans les nouvelles tours d'habitation. Des solutions qui ont contribué à freiner la congestion, mais pas partout.
Il est rare que je vienne au travail en voiture.
Franck Beaucoup préfère prendre le vélo pour parcourir les 8 km qui le séparent de sa maison de Vancouver, de son travail dans la banlieue de Richmond, de l'autre côté du pont de Larry Knight.
C'est juste à cause du pont, simplement. Le pont typiquement est lent, mais la congestion est avant le pont, pour monter sur le pont. Donc il y a des congestions pratiquement tous les jours. Aux heures de pointe, l'attente doit être en moyenne de 20 à 25 minutes, je dirais, peut-être. Il y a très souvent des longues files qu'on passe en vélo. Ce qui est d'ailleurs très, 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 très agréable, je peux dire. La meilleure partie.
Des ponts devenus la croix et la bannière des automobilistes vancouverois.
Il n'y a pas de congestion. La congestion routière, il faut relativiser. Hein. C'est-à-dire que c'est une congestion qui reste très localisée. Quoi. Donc, et elle est localisée sur les ponts. Si on ne traverse pas de pont en général, on n'a pas trop de problèmes.
Des ponts toutefois quasi impossibles à éviter dans la région de Vancouver, qui s'étend sur un ensemble d'îles levées les unes contre les autres, reliées par un réseau étendu d'une vingtaine de ponts et de tunnels. Des ponts que les autorités de la région sont réticents à construire, explique Patrick Rowe, du groupe de lobby pour le transport public Transport Canada.
La stratégie de ne pas multiplier le nombre de ponts et plutôt de développer des modes alternatifs, ça part d'un désir politique, mais c'est aussi une contrainte financière. C'est que tous les ponts doivent être construits avec une très, très haute hauteur pour pouvoir passer des cargos Panamax qui laissent passer des bateaux qui jusqu'à 50 mètres de haut. Donc dès que vous voulez construire un pont ici, c'est 1 milliard ou 2 milliards de dollars, voire 3. Donc tout de suite, ça coûte excessivement cher et 3 milliards de dollars juste pour un pont versus 2 milliards de dollars pour une ligne de métro complète. On est dans des cas de figure que d'autres villes comme Toronto ou Montréal n'ont pas à faire.
Une congestion à l'entrée des ponts et des banlieues qui risque de mettre en péril le succès de Vancouver. À nouveau, Patrick Rowe.
Globalement, Vancouver, ils font beaucoup de choses bien, mais c'est un petit peu un Venise au milieu de Phoenix. C'est-à-dire que autant on fait beaucoup de choses bien dans le centre-ville de Vancouver, autant plus on s'éloigne de Vancouver, plus les mentalités politiques globalement restent ancrées dans le tout automobile dans les années 1960. Hein, donc ici, on est un petit peu à la marge, à Richmond, à la marge de cela.
Le métro aérien ne se rend qu'à la moitié nord de la banlieue. Plutôt que de prolonger le métro, on propose un pont à 10 voies entre Richmond et la banlieue sud de Delta. Reste à savoir si la ville de Vancouver pourra absorber le nombre grandissant de voitures qui se présenteront alors à ses portes.
The next train to arrive on the outbound platform is for YVR Airport.
À Bruxelles, le concept d'autopartage progresse rapidement. Vous êtes propriétaire d'une voiture dont vous n'avez pas besoin tous les jours, vous pouvez recourir au système d'autopartage Cosycar. Un jour sur deux, ou plusieurs fois par semaine, votre voiture est mise à disposition des autres membres du groupe, par exemple vos voisins d'immeuble. Avantage, vous faites des économies, entretien, taxes, assurances, etc. Votre voiture est mieux rentabilisée et, au bout du compte, il y a moins de véhicules en circulation. Le système des voitures partagées est en plein développement, tant en Wallonie qu'à Bruxelles même. C'est un reportage de Thierry Van Gulik, de la RTBF.
Donc on a tous un double de la clé de la boîte aux lettres, ce qui nous permet de pouvoir venir chercher les clés sans solliciter Antoine et Julie, les propriétaires de la voiture.
Joséphine, autopartageuse convaincue, vient chercher la voiture de Julie et Antoine, un couple de Tournaisiens qui met son véhicule à disposition de ses voisins depuis 3 ans.
Donc la nôtre est facile à repérer parce qu'il y a un Tintin imprimé derrière. Donc normalement, on la voit de loin. La voilà. Première chose, s'installer et vérifier que la personne qui l'a utilisé la dernière fois n'a pas oublié de noter le dernier kilométrage.
Vous avez fait le calcul, ce que vous économisez par rapport à la voiture que vous possédiez ?
Moi, les mois où je la prends vraiment beaucoup, ça me coûte 120 ou 130 euros par mois. C'est vraiment exceptionnel, c'est les plus gros mois. Et de calcul, ma voiture me coûtait 180 à 200 euros par mois pour une poubelle qui ne roulait pas beaucoup non plus, mais voilà, il fallait l'entretenir, il fallait payer les taxes, les assurances, etc. Donc, moi, je suis gagnante. Régler les rétroviseurs parce qu'Antoine est très grand.
Je suis Julie, mon compagnon Antoine et moi, et notre petit Émile, on partage notre voiture, notamment avec Joséphine. On a longtemps hésité à acheter une voiture parce qu'on l'utilise très peu. Et du coup, on s'est un peu renseigné. On s'est dit, pourquoi pas, maintenant qu'on a acheté une voiture, en faire profiter aux autres. Mon compagnon et moi, on travaille tous les deux à Bruxelles. On se rend au travail en train. Donc la semaine, on n'en a quasiment pas besoin. On habite en centre-ville, donc on peut faire énormément de choses à pied ou à vélo. Donc on s'est dit, c'était une bonne solution.
Vous ne gagnez pas vraiment d'argent avec ce système, mais vous faites de sérieuses économies.
C'est vrai que ça permet d'amortir les frais fixes d'une voiture. Nous, avant de partager la voiture, on faisait moins de 10 000 km par an. Donc payer une assurance, taxe de roulage, etc. pour ça, plus le coût initial de l'achat, c'est vrai que ça fait beaucoup au kilomètre. Là, les gens payent, en fonction du groupe, entre 30 et 35 centimes du kilomètre.
Julie et Antoine ont très vite été rejoints par d'autres autopartageurs, séduits par l'idée et par le système Cosycar, la première association à promouvoir l'autopartage entre voisins en Belgique. Sandrine Vaucard, sa porte-parole.
L'idée, c'est que j'ai ma voiture et je crée un groupe avec des gens que je connais, des voisins, des amis. C'est pour ça que ça renforce la confiance au sein du groupe et que la voiture est d'autant plus utilisée et qu'elle sert vraiment d'alternative à la possession de sa propre voiture.
Vous proposez un site sur lequel on peut prendre contact et s'organiser finalement.
Oui, le site de Cosycar permet au groupe de se gérer, donc de réserver leur voiture en ligne via un agenda partagé, d'encoder les kilomètres qui ont été parcourus, d'obtenir des décomptes automatiques. Ainsi, ni le propriétaire ni les utilisateurs n'ont trop de démarches administratives.
Là où votre rôle a été décisif aussi, c'est par rapport aux assurances.
Oui, nous avons contracté une assurance spécifique autopartage qui fait que si vous faites un accident avec ma voiture, le bonus-malus ne va pas augmenter et donc la prime n'augmentera pas non plus.
Le bonus-malus, une particularité de l'assurance en Belgique. Moins vous avez d'accidents, moins vous payez pour être assuré. Un avantage qui a été décisif dans le succès de l'autopartage.
Alors ça marche de plus en plus. Il faut savoir que tout ce qui est mobilité partagée, c'est assez en vogue pour le moment. Les gens réfléchissent davantage. Et à présent, on a 5000 utilisateurs sur le site.
Donc là, on est sur le site de Cozy Car. Comment on fait pour réserver alors ?
Alors, je vais sur l'onglet « Mimes voitures ». J'ai besoin de la voiture jeudi prochain pour aller chez le kiné.
Marie-Hélène a été la première autopartageuse à tourner. C'est elle qui a convaincu les autres de se lancer dans l'aventure.
Donc je pense que les gens avaient une écoute par rapport à ça. Beaucoup de gens se disent, oui, mais c'est ma voiture, est-ce que j'ai envie d'apprêter ou pas, machin. Et donc,
ça, c'est la première question.
Voilà.
Oui, au début, d'office, on a un peu peur. On se dit, ouais, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident, cas d'urgence? Puis bon, quand on en parle aussi autour de soi, hein, la première réaction, les parents, vous imaginez même pas, là, déjà une autre génération, c'était, oh, mais vous êtes dingue, mais ils vont l'abîmer. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette peur... qui est présente, et puis après, voilà, on rencontre les gens, on se rend compte que voilà, c'est pas des gangsters.
Est-ce que ça fait des petits, cette idée?
Oui, bah depuis qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans déjà,
ouais.
Les groupes ont beaucoup bougé. Il n'y avait qu'un seul groupe au départ, ouais. Et puis maintenant on est. Il y a 4 ou 5 groupes, ouais. Oui.
Ah. Ta sœur est un bon exemple.
Oui, voilà.
J'ai de la chance avec ta sœur, elle a vite. À côté de chez moi, donc la voiture devant chez moi, c'est le pied total.
Xavier Takoun dirige le bureau d'études Espace Mobilité. Pour lui, l'autopartage s'impose peu à peu en Belgique et surtout à Bruxelles.
On est devenu à Bruxelles quasiment la capitale de l'autopartage, hein, au niveau européen, voire mondial. Tous les opérateurs veulent être présents ici à Bruxelles, c'est une bonne image. Une voiture en autopartage va pouvoir remplacer 6, 8, parfois 12, voire 15 voitures de particuliers. Bon, il ne faut pas espérer que tout le monde va s'affranchir de la voiture, mais il faut qu'un maximum de gens s'affranchissent de la possession automobile. Parce que c'est ça qui tue nos villes. Aujourd'hui, à Bruxelles, je le répète souvent, il y a de l'ordre de 300 000 voitures garées sur l'espace public. 300 000 voitures, imaginez une bande d'autoroute entre Bruxelles et le Colisée à Rome. C'est ça que ça représente. Et donc, faire respirer la ville, c'est donner de la place aux autres modes de transport.
Joséphine a terminé ses courses et ramène la voiture.
Aucun regret par rapport à l'autopartage? Pour vous, c'est vraiment une expérience positive?
Ah oui, là, actuellement, je ne suis pas du tout dans un état d'esprit de me dire que j'ai l'intention d'arrêter. Non, aucun regret.
Alors, voiture partagée, voiture de demain, assurément une des solutions, en tout cas, pour que la ville respire enfin à nouveau.
Cap sur Genève, la capitale de l'embouteillage en Suisse. L'agglomération genevoise compte environ 1 million de personnes, mais ce grand Genève a une particularité, il est coupé en deux par la frontière franco-suisse. Une agglomération, deux pays, un contexte qui engendre un important trafic routier, d'autant plus que le développement des transports publics n'a pas suivi la forte augmentation du nombre de travailleurs transfrontaliers ces dernières années. Un reportage de Tania Saspinard de la RTS.
Il est 7h du matin, on se trouve à Soral, un petit village au sud du canton de Genève, tout près de la frontière avec la France. Tous les jours, il y a environ 10 000 voitures qui passent. Donc on retrouve le maire de Soral, Raoul Flores, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est en train de se passer?
Le trafic transfrontalier commence gentiment à arriver, par petites vagues mais sans discontinuité. Et puis on arrive rapidement à se rendre compte que... tout ce trafic qui passe par Soral, eh bien, c'est pas quelque chose de naturel, on va dire, puisque Soral, comme on peut le constater, est un tout petit village avec des toutes petites rues qui n'est pas du tout aménagé pour absorber ce trafic transfrontalier.
Comment on explique que Soral soit un tel point de passage?
La douane de Bardonnay étant saturée, les gens, tout naturellement, ils empruntent les petites routes d'accès. Et puis Soral, c'est devenu, malgré elle, une pénétrante du canton de Genève.
Entre 6h30 et 8h30, le flux de véhicules est continu dans ce petit village de campagne. Mais les travailleurs frontaliers sont indispensables pour faire tourner l'économie genevoise. Pour preuve, le canton compte environ 130 000 emplois de plus que le nombre d'habitants en âge de travailler.
Le lendemain, on se rend à Saint-Julien-en-Genevois, une commune française de l'autre côté de la frontière donc. Et là aussi, chaque jour, le maire Antoine Vieillard assiste à un drôle de phénomène.
Nous, on est dans une situation un peu particulière parce que vu le coût des logements à Saint-Julien, les gens qui vivent à Saint-Julien sont obligés d'avoir des revenus suisses pour payer leur loyer. Donc pour l'essentiel, ils quittent la commune le matin pour aller travailler à Genève. Et les personnes qui travaillent à Saint-Julien, qui sont à peu près le même nombre que le nombre d'habitants qui partent, eux vivent en dehors de Saint-Julien. Et donc en fait, c'est comme un cœur. La ville se vide de ses habitants qui vont travailler en Suisse et se remplit de ses actifs qui sont obligés de vivre beaucoup plus loin de la commune.
Est-ce que selon vous, une des explications est le fait que potentiellement Genève a un peu manqué d'anticipation concernant sa croissance économique ?
Très certainement, mais il n'y a pas que Genève. Nous aussi, sur la partie française, on ne s'attendait pas à ce que les choses prennent de telles proportions. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que pendant longtemps, sur toutes les cartes, on représentait son côté du pays, puis l'autre côté, c'était blanc, sans prendre en compte la continuité du territoire et la réalité de la vie des gens. Puis souvent, on réglait nos problèmes de notre côté de la frontière. Côté français, on laissait Genève s'occuper de la question de l'emploi. Côté genevois, on laissait la France s'occuper de la question du logement. Mais entre les deux, il y a la question de la mobilité.
La construction de logements à Genève n'a pas suivi la croissance économique. Le canton n'a en fait pas la capacité d'héberger l'ensemble de ses travailleurs. Tous les matins, le canton est donc traversé par des dizaines de milliers de véhicules de personnes françaises ou suisses qui habitent la France et viennent travailler à Genève. Aux heures de pointe, ce trafic rejoint l'important flux de voitures déjà présent au centre-ville, ce qui crée une saturation des axes routiers. Thomas est un jeune travailleur frontalier. Chaque jour, il se lance dans la jungle de voitures pour parcourir la vingtaine de kilomètres qu'il sépare de son lieu de travail. Des bouchons donc, mais il n'est pas prêt à lâcher son véhicule privé.
En fait, le problème, c'est que même en prenant le bus, je vais avoir un temps de trajet qui va être énorme dans la mesure où je traverse complètement l'agglomération genevoise. Du coup, il faudrait que je fasse des changements de bus, que je prenne le train pour aller jusqu'à Versoix et que je termine à pied. Donc en termes de temps, je mettrais au minimum le même temps, voire même un petit peu plus. Il faut 30 minutes, je crois, pour aller de VJ jusqu'à Rives. Après, il faudrait que je change, que j'aille jusqu'à la gare, que je prenne le train et que je termine ensuite à pied.
Ici, tout le monde s'accorde sur le fait que du retard a été pris en termes de mobilité au sein de cette agglomération atypique qu'est le Grand Genève. Pour beaucoup, la solution s'appelle SEVA. C'est l'acronyme d'une ligne de train qui reliera les réseaux de transport public de Genève et de France voisine. Christian Duposset est le maire d'Annemasse, ville française terminus de cette ligne ferroviaire en cours de construction.
Ah, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une véritable révolution que l'on va vivre, je l'espère, à partir de 2019. Le SEVA, avec les TER qui vont fonctionner, c'est-à-dire le Léman Express, c'est un train toutes les 10 minutes en direction et provenant de Genève, mais c'est aussi l'irrigation de la Suisse romande jusqu'à Copet-Lausanne et de toute la Haute-Savoie. On crée la possibilité d'un report modal, c'est-à-dire que le fait que les gens abandonnent leur voiture et grâce à des parkings relais puissent circuler facilement et de manière cadencée et pour rejoindre la Genève, mais aussi pour se déplacer sur l'ensemble de cette zone. Une vraie révolution est en train de se passer en matière de transport, même si ça a été long.
Un processus long, très long effectivement, puisqu'on en parle depuis plus de 100 ans. Les discussions ont été réactivées en 2001. Politiquement, il a d'abord fallu se mettre d'accord des deux côtés de la frontière. Financièrement, qui paye quoi sur un total d'environ 2 milliards de francs financés au final aux trois quarts par la Suisse? La question a beaucoup crispé. Et autre difficulté, convaincre la population, ce qui n'a pas été et n'est d'ailleurs toujours pas facile, comme en témoigne l'actuel ministre genevois en charge de la mobilité, Luc Bartassa.
C'était très compliqué. Il y a même une partie du financement qui a dû être avalisée par la population. Et la population, heureusement, a soutenu. On n'est pas en train de faire les choses pour les Français ou des choses pour les Suisses. Je crois qu'on est en train de faire quelque chose pour toute la région. On ne peut pas se permettre d'avoir tout le monde qui vient en voiture. Il faut qu'on développe ces transports publics, ces RER. Donc voilà, on a perdu du temps. Heureusement, la Confédération finance quand même une grosse partie de ses frais. Ce qui est du côté français, quand même financé par les Français. Mais c'est vrai qu'il y a les projets d'Aglo et le canton de Genève qui mettent pas simplement d'argent dans une infrastructure qui va servir autant aux Français qu'aux Suisses.
Les premiers trains devraient circuler fin 2019 avec déjà un gros retard sur le calendrier initial. Mais de nouveaux recours déposés côté Genevois pourraient encore reporter la mise en service. Cela dit, à terme, ce sera en tout cas la concrétisation d'un des plus grands projets de collaboration transfrontalière du Grand Genève. Restera à voir s'il n'intervient pas trop tard pour convaincre les frontaliers d'abandonner leur voiture au profit du rail.
Reportage pour finir ce tour d'horizon en Côte d'Ivoire avec Frédéric Gara sur les transports en commun et les taxis de quartier à Abidjan. Ceux-ci sont en même temps une solution à la faiblesse du réseau des transports en commun public et un problème, très forte pollution au monoxyde de carbone du fait de la vétusté des véhicules.
La circulation à Abidjan, c'est un subtil mélange de voies goudronnées, de ponts ultra-modernes, de chemins boueux et défoncés dans les quartiers sur lesquels des véhicules 4x4 flambant neufs ou bien des épaves rafistolées transportent chaque jour des centaines de milliers d'habitants. Il en résulte, aux heures de grande circulation ou dès qu'un carrefour stratégique est bloqué, un capharnaüm routier qu'on ne voit pas souvent ailleurs. Dieudonné, chaque jour, prend les BACA, les minibus de quartier, qui assurent des liaisons régulières pour quelques centaines de Français CFA.
À part les embouteillages, qui sont énormes, on pensait que la construction des différents échangeurs et ponts allait résoudre le problème. Mais c'est beaucoup inquiétant parce que c'est toujours le même problème des embouteillages, surtout aux heures de pointe.
Vous, au quotidien, vous faites quel type de trajet, ça ?
Benjaville, Cocody, Makori. Voilà, ça, c'est mon circuit habituel.
Et ça vous prend combien de temps chaque jour en transport ?
Quand je me réveille tôt, 45 minutes. Voilà. Mais aux heures de pointe, là, il faut oublier, quoi, parce que là, tu peux prendre carrément 2 heures dans les embouteillages.
Les BACA, les bus de quartier ou bien les woro-woro, les taxis collectifs, sont les moyens de transport préférés des Abidjanais. Plutôt économiques, mais pas toujours sûrs, tant les chauffeurs roulent souvent comme des chauffards. Marie-Chantal les utilise quotidiennement, mais avec parfois la peur au ventre.
Il y a trop de voitures pour les routes qu'on a, mais c'est surtout parce que les chauffeurs eux-mêmes ne sont pas disciplinés, à mon avis. Il y a l'indiscipline totale qui fait que c'est difficile de circuler.
Ça se traduit comment, cette indiscipline ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui roulent n'importe comment,
qui roulent n'importe comment, qui ne respectent pas, à mon avis, le code de la route, et qui manquent de courtoisie même, et qui ne veulent pas faire la place quand il faut faire la place. En tant que passager, oui, ça me fait peur, et en tant que piéton également. Parce que quand on prend par exemple les BACA, ils roulent d'abord à vive allure. Même là où il ne faut pas rouler à vive allure, roule à vive allure. Donc nous qui sommes dedans, on est apeurés. On a peur tout à l'heure celui avec qui on venait, mais il filait. Et tout le monde dans le BACA était obligé de réagir, de lui crier dessus pour qu'il ralentisse.
C'est un peu ce qu'on appelle les s'en fout la mort, quoi. C'est...
Tout à fait. Comment vous savez, c'est tout à fait.
Face à la croissance démographique galopante avec 5 à 6 millions d'habitants, l'extension des zones urbaines et périurbaines, la commune d'Abidjan et l'État ivoirien travaillent à fluidifier la circulation et à privilégier les transports en commun, mais tout est urgent. Anne-Cécile Souad, responsable transport à la Banque mondiale.
Aujourd'hui, on a un décalage entre, je dirais, le développement et la croissance du transport en commun formel et la croissance démographique et les besoins de déplacement de la population, et qui est rattrapé justement par l'informel et wo-wo-wo, etc. Et c'est là où le travail actuellement du gouvernement est un travail remarquable, parce qu'ils essaient justement de remettre à niveau un peu le transport en commun formel avec les projets du train urbain, etc. Et nous, à la banque, on essaie de les aider à réfléchir justement à d'autres moyens de transport de masse, type BRT, qui permettront de transporter plus de monde, plus vite, à plus de capacité. C'est les Bus Rapid Transit, c'est les systèmes de bus à grande capacité.
À l'incivisme et l'indiscipline des transports collectifs ou de certains particuliers s'ajoute la vétusté du parc automobile. Certains véhicules ont plus de 30 ans et une bonne partie crache des fumées noires comme de la suie grâce à des moteurs hors d'âge et du carburant diesel de qualité inférieure. Amadou Koné, ministre ivoirien des transports.
Il y a peut-être la qualité du carburant, la qualité, je ne dis pas que c'est de mauvaise qualité, mais... Si vous vous souvenez, il y a 2 mois à peu près, donc le pays a décidé de passer à la norme Euro 6. Donc pour ce qui est des véhicules et de la pollution donc de l'air. Donc, ce qui nous amène donc, à prendre un certain nombre de dispositions, notamment en commençant donc, par calibrer notre raffinerie. À un moment, comme certains pays au Maroc ou la Turquie ont fait, il faudra interdire l'importation donc, d'un certain nombre de véhicules en occasion pour que tout cela se fasse. Donc, il y a que nous allons bientôt, je l'espère, parce que les textes sont prêts, ont été discutés en conseil de gouvernement, diminuer l'âge d'importation des véhicules.
En attendant ces mesures, dans le secteur informel, ce sont souvent des véhicules qui ressemblent vaguement à des épaves qui assurent le transport en commun. Des portières rafistolées avec des câbles ou du scotch, des bus au châssis désaxé, on trouve de tout sur les routes d'Abidjan. Rendez-vous à la CICTA, le centre de contrôle technique où les véhicules, chaque année, obtiennent ou pas leur certificat de conformité avant de prendre la route.
Par exemple, le bon fonctionnement de la ceinture. Donc, on va voir derrière si ça se déroule complètement. D'accord. On va vérifier en tirant brusquement pour voir si l'autoblocage s'est fait. Voilà, on va vérifier l'état intérieur, l'état des sièges, la fixation de la portière, enfin, l'état du volant, des pédales.
Pour l'échappement
Oui, on contrôle l'opacité sur le véhicule. Plus simplement, c'est de voir déjà des particules au niveau des gaz d'échappement.
Quelle est la norme tolérée ou acceptée en Côte d'Ivoire à ce niveau-là?
Oh, c'est un contrôle visuel.
C'est juste un contrôle visuel.
C'est juste un contrôle visuel.
Il faut dire qu'à ce niveau, il n'y a pas encore de texte, mais les ministères des Transports et de l'Environnement sont en train de travailler sur des tests pour nous fournir les limites à contrôler. Pendant les appareils de dernière génération qui sont déjà dans nos différentes stations. Nous attendons juste que les tests arrivent et qu'on les applique. Mais en ce qui concerne la pollution, nous savons que ça peut causer bien sûr des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies, l'asthme et autre chose.
Pour réduire les embouteillages et la pollution à Abidjan, les autorités prévoient la création d'un métro et le développement du transport en commun terrestre ou lagunaire. Mais en attendant, un effort notoire doit être fait sur le contrôle du parc automobile. Sur 600 000 véhicules répertoriés à Abidjan, seulement un tiers passe véritablement le contrôle technique. Les épaves roulantes ont encore de beaux jours à vivre dans les rues d'Abidjan. Avec nous en studio, Yves Crozet, économiste, chercheur au laboratoire d'aménagement et d'économie des transports. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on vient de l'entendre et en fait on connaît bien les données du problème. Trop de circulation automobile engendre la paralysie des villes et des menaces sur la santé des citoyens. On connaît le problème, on connaît la solution, diminuer la part de la voiture dans les déplacements urbains. Et pourtant on n'y arrive pas ou on y arrive mal.
Oui, on y arrive difficilement parce que la voiture est un objet tellement efficace qu'il est difficile de s'en passer, sauf si vous avez un axe lourd de transport public, mais ça n'existe que pour une partie de la population. Et comme en même temps les élus hésitent à utiliser un bâton très puissant pour dissuader l'usage de la voiture, un bâton qui pourrait être le péage par exemple, ou des interdictions plus larges que celles qui existent, eh bien le problème subsiste.
Il faudrait encore plus d'interdictions pour avoir un peu moins d'embouteillages ?
Alors, de toute façon, les embouteillages ne s'évitent pas. Il existe en économie ce que nous on appelle un principe de Wardrop, qui fait que dès que vous avez quelque part un peu de fluidité qui apparaît, immédiatement le trafic se reporte sur cette zone de fluidité. Ainsi, dès que vous créez par exemple un périphérique, ce périphérique va drainer du trafic, et comme ce périphérique est efficace, il va entraîner de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit congestionné. Et donc, à un moment, il faut limiter la quantité de voitures, et pour la limiter, l'action, c'est une action par les prix, encore une fois le péage, ou c'est une action par l'interdiction, interdiction des véhicules les plus polluants, interdiction des véhicules où il n'y aurait qu'un seul conducteur, par exemple. Peut-être que le covoiturage, plus ou moins obligatoire, pourrait remédier à cela dans les années qui viennent.
Vous venez de publier chez Economica un ouvrage intitulé « Hypermobilité politique publique, changer d'époque ». Point d'interrogation. Comment on le traduit ce point d'interrogation? Comment on change d'époque?
Oui, si j'ai mis un point d'interrogation à changer d'époque, c'est que le changement d'époque ne prend pas la forme que certains espèrent. Alors qui pourrait être soit la forme d'une brutalité extrême, par l'interdiction pure et simple de la voiture, ou par des péages extrêmement élevés, de 10 à 20 euros par jour pour rentrer dans une agglomération, et ne prendra pas non plus la forme d'un progrès technique du type voiture autonome, dont on nous dit que, soi-disant demain, elle va supprimer les embouteillages. Pour qu'une voiture supprime les embouteillages, il faut qu'elle soit chargée. Parce que une voiture autonome avec seulement une personne à bord, elle occupe autant d'espace qu'une voiture ordinaire. Donc l'évolution de la circulation ne peut se faire que si on augmente le taux de remplissage des automobiles. Et ça, pour l'instant, on tâtonne. On ne sait pas comment organiser le point de rencontre et le système de paiement entre le conducteur et les utilisateurs. Peut-être que les nouvelles technologies nous aideront à faire cela, mais ne rêvons pas, les villes de demain seront encore des villes embouteillées.
Mais il y a des endroits où la simple géographie rend inimaginable l'extension des réseaux routiers ou même ferroviaires. Paris, par exemple, est une toute petite capitale où il y a de toute façon plus beaucoup de place, même pour faire des nouvelles voies ferrées, pour faire de nouveaux métros, de nouveaux RER.
Oui, alors il faut imaginer que faire de nouvelles voies routières, par exemple, est sans doute impossible. Il y a quand même le projet du Grand Paris qui envisage en souterrain de faire de nouvelles voiries qui vont desservir au moins une partie des habitants. N'oublions pas qu'il y a une autre solution à celle d'aller dans la fuite en avant vers les transports, c'est la solution de la densification. Vous dites que Paris est déjà très dense, c'est vrai pour la partie centrale de Paris. Si vous regardez la première couronne, il y a encore de fortes possibilités de densification. Et avant le projet du Grand Paris, il y avait le projet Arc Express de la RATP. Et ce projet Arc Express visait bien à ceinturer Paris dans la première couronne pour aboutir à la densification de la première couronne. Donc n'oublions pas que gérer une ville, c'est pas seulement offrir du transport, c'est aussi offrir des activités de plus en plus denses sur un territoire donné.
Alors justement, là, on arrive sur le conflit entre Paris et l'Île-de-France en général, parce que les mesures strictement parisiennes, interdiction, restriction de circulation, cristallisent en fait les mécontentements des autres habitants usagers, les banlieusards, qui en plus sont beaucoup plus nombreux que les vrais parisiens, les purs parisiens.
Une grande partie de ceux qui circulent en voiture dans Paris ne sont pas parisiens, puisqu'à Paris, un ménage sur deux n'a pas de voiture. Et s'ils prennent leur voiture, c'est pas parce qu'ils sont de mauvais citoyens, c'est le plus souvent parce que c'est plus rapide, et voire éventuellement ça peut être moins cher si, par exemple, ils ont un parking sur le lieu de travail. Donc, la régulation de tout cela, encore une fois, doit passer soit par un système de tarification. La tarification du stationnement va être fortement modifiée à Paris. Le prix va beaucoup augmenter. C'est quelque chose qui va sans doute jouer. Soit la tarification de la circulation, comme on le fait à Stockholm, à Londres ou à Singapour. Mais dans le même temps, je pense que plutôt que des interdictions pures et simples de circulation, ou simplement des interdictions de circulation sur des véhicules anciens, on pourrait organiser un système de covoiturage avec des axes réservés aux véhicules ou les personnes covoiturent et des lieux de parking où les réservés aussi pour ces personnes. Ça va exister à Lyon, ça existe déjà dans l'Ouest parisien, où sur certains axes lourds automobiles, on peut organiser des systèmes d'arrêt pour du covoiturage sur le modèle du transport collectif.
Alors justement, qui sont les bons élèves dans nos économies occidentales? Les Anglais avec le péage urbain dans Londres, les Asiatiques qui augmentent aussi les tarifs de façon très conséquente, les Nordiques qui favorisent les circulations douces. Chez nous, vous évoquez souvent Bordeaux ou Lyon, par exemple.
Bordeaux est un mauvais exemple en termes de congestion, puisque chaque matin, chacun l'entend sur France Inter, c'est là que la congestion est la plus forte, parce qu'il faut traverser la Garonne, le nombre de ponts est limité, et que les embouteillages sont extrêmement élevés, parce que Bordeaux est une ville extrêmement étalée et extrêmement peu dense. Donc plus vous diminuez la densité, et plus vous augmentez la congestion routière. À Lyon, vous avez quelque chose qui se passe assez bien dans la partie centrale de la ville, mais comme la ville s'étale, vous avez quand même 500 000 voitures qui rentrent chaque jour dans l'agglomération lyonnaise, avec des forts bouchons au nord pour le tunnel de Fourvière, ou à l'est sur l'autoroute A43. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution magique pour cela. L'idée, c'est bien de faire basculer pas la totalité, mais une petite partie de ceux qui roulent en voiture vers des modes soit des transports collectifs, soit des systèmes de covoiturage. Et là, on a bien sûr le bon exemple qui est l'Europe du Nord, puisque quand vous allez à Stockholm ou à Oslo, la circulation est beaucoup moins dense que chez nous. Il faut dire que les villes ne sont pas très grandes, mais d'une part parce qu'il y a un péage, d'autre part parce qu'il y a une forte partie du trafic qui se fait en deux roues pour les petites distances, et qu'à partir de là, le reste du trafic peut être fluide, puisque les infrastructures sont de taille suffisante. On voit bien que les villes françaises sont en train de rattraper leur retard, mais elles ont beaucoup de retard sur le partage de la voirie entre les automobiles, les transports collectifs, les piétons et les vélos. La question clé de la circulation en ville, pour les individus, c'est une question de temps. Mais pour les politiques publiques, c'est une question d'espace. Donc, chaque fois que les élus se trompent en disant « on va faire des gains de temps pour les usagers », ils se trompent parce qu'ils n'abordent pas le vrai problème qui est quel est l'usage collectif de l'espace que nous voulons. Et quand on a réfléchi à cela, eh bien, on se rend compte qu'il faut réduire l'usage de l'espace pour la véhicule particulier et augmenter l'usage de l'espace pour les deux roues, les piétons, les transports collectifs.
C'est donc uniquement une question de courage politique, après tout.
Oui, c'est une question aussi de compréhension de la politique. Quand M. Sarkozy, en annonçant le Grand Paris en 2009, a dit « Grâce au Grand Paris, les Parisiens vont gagner 30 minutes de trajet en moins chaque jour », c'était bien sûr une chimère qui plaisait aux oreilles des Parisiens, mais c'est une chimère. Parce que le Grand Paris dit « Il n'y a pas de problème d'espace, on passe en souterrain ». Or, le problème de la ville, c'est la gestion de l'espace aérien, si j'ose dire, de l'espace vierge où nous circulons tous, automobilistes, piétons et cyclistes. Et c'est là qu'il faut modifier le partage et pas faire la fuite en avant vers toujours plus de vitesse.
Est-ce que par ailleurs, par rapport à ce problème de congestion, vous considérez que le réseau des transports en commun est suffisant, suffisamment efficace, suffisamment efficient ?
Alors, en Ile-de-France, le réseau de transports en commun est bien sûr le meilleur qu'on peut imaginer en France. Le maillage des stations de métro est extraordinaire, avec des très courtes distances entre les arrêts. Si vous allez, par exemple, à Shanghai, vous avez un maillage qui est aussi très bon, mais avec des distances beaucoup plus longues entre chaque arrêt. Et c'est pareil à Séoul, en Corée. Donc, si vous ratez une station, il faut marcher beaucoup pour aller entre deux stations. Donc, le maillage de transports en commun à Paris, en métro, et ne l'oublions pas, en bus, est assez exceptionnel. Et c'est bien pour ça que Paris reste une ville relativement dense et est redevenue une ville attractive, puisque depuis le début des années 2000, la population revient dans le centre de Paris. Donc le problème clé de la circulation n'est pas dans Paris, le problème c'est bien en première couronne, et c'est l'objectif des deux premières lignes du Grand Paris qui reprennent en fait le réseau Arc Express proposé par la RATP.
Dans Paris c'est satisfaisant, c'est autour qu'il y a un problème de transport en commun.
Voilà, au niveau de la première couronne, on voit bien qu'il y a quelques radiales qui permettent de rejoindre le centre de Paris. Et le but de la partie centrale du Grand Paris, c'est bien d'avoir une ligne circulaire qui entoure la capitale et qui permet d'aller d'est au sud ou du sud à l'ouest sans forcément faire le tour complet.
Yves Crozet, économiste, chercheur en économie des transports. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Interception vous a proposé Regard croisé, une émission des médias francophones publics. Regard croisé sur nos villes qui étouffent. Avec des reportages de Frédéric Gara pour RFI, Tania Saspinard pour la RTS, Thierry Van Gulik de la RTBF, Dominique Arnoldi pour Radio-Canada et Thibault Lefebvre pour Radio France. Mixage Cédric Chatelus, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili. Après le journal, première d'une série d'émissions estivales consacrée par Christophe Barrère au Grand Discours. Aujourd'hui, retour en 1963 à Washington, pendant la marche pour l'emploi et la liberté, Martin Luther King prononce son fameux « I have a dream ». À la semaine prochaine.